Alors pour ce 11e de Radio Barque 5e saison, Michel, tu prévois de nous parler de ce que tu intitules un apéro jaune, tout est jaune aujourd'hui, sous les fenêtres d'un député qui lui peut-être riait jaune aussi, si tu me permets cette remarque au passage.
Oui, alors pourquoi ce billet que j'ai mis en ligne d'ailleurs ce matin avant de venir ici à la radio? Pour la raison suivante. Dimanche dernier, sur ma page Facebook, j'écris un texte, courage, fête et honneur, dans lequel, pour aller vite, je m'étonne, je sais plus que m'étonner évidemment, du silence de tous les élus, sénateurs, députés, maires, présidents de conseils d'agglomération, de communes, etc. Ouais,
et tout
du silence.
Et tout y quanti, oui.
Devant deux faits qui me semblaient importants. De relever de faits d'une violence extrême.
Oui, tout à fait, dans
l'actualité. Et qui, de plus, s'attaquait à des symboles de la République, comme la sous-préfecture de Narbonne, d'une part, et le bâtiment de la gendarmerie mobile, d'autre part. Je rappelle à nos auditeurs que certains individus dits gilets jaunes ont tout simplement jeté je ne sais quoi dans la cour de la préfecture, et je passais devant et puis j'ai assisté à ces belles flammes qui léchaient les murs de la sous-préfecture. Et tout le monde se rappelle aussi que le bâtiment de la gendarmerie mobile a été purement et simplement dévasté par un groupe de gilets jaunes qui, au passage, a complètement cassé, le péage, c'est...
Oui,
péage.
N'oublions pas le péage Narbonne-Sud de l'autoroute Narbonne-Sud.
Je disais dans ce papier, mais voyons, comment, se fait-il que des élus qui portent les couleurs de la République, je fais référence à l'écharpe, évidemment, non seulement les couleurs, mais aussi les valeurs de la République, comment expliquer ce silence devant ces deux événements? Et je disais, je terminais mon billet sur le Facebook, non pas dans mon blog, en disant, mais devant des événements encore plus tragiques, comment se comporteraient-ils nos élus en question?
Oui, alors tu posais la question.
Et je lis dans la presse une déclaration signée par 33 élus.
36.
36, pardon. 36 élus.
Un manifeste, une sorte de manifeste.
Maire, conseiller généraux, président d'agglo.
Voilà, tous ceux dont tu souhaitais l'engagement, en quelque sorte.
Qu'il a fait une déclaration commune, reprenant en substance mon indignation. Pourquoi? Mais parce que des gilets jaunes.
Oui, nuance. Ou même des soi-disant. Porter
des gilets jaunes. Se sont pointés, la nuit tombée, puisque la nuit tombe vite, l'hiver, devant le domicile privé du député Alain Perea, pour certainement y faire un apéro citoyen, donc fraternel, dans le style monsieur, nous sommes là, pour vous dire à quel point nous sommes indignés, que deux, nous voulons toute une série de revendications, nous vous les rappelons, etc. Il se trouve que le député n'était pas là, qu'il avait sa femme qui paniquait de voir ces individus, la soeur tombe devant eux, s'est vite éclipsé de sa maison. Et terminant, je parle des gilets jaunes, en question, terminant dans le style, si vous ne répondez pas à nos revendications, vous, comme tout le reste, on saura,
on s'en rappellera,
quelle conclusion on se rappellera à vous pour d'autres actes implicitement de même nature ou plus violents.
C'est-à-dire mesure d'intimidation la plus flagrante.
Alors évidemment, je ne vais pas faire la fine bouche, Jean-Claude, je me réjouis de cet acte, de cette solidarité manifestée par tous ces élus sur cet événement précis.
Tout arrive.
Mais la question que je pose, in fine, et la suivante. Si cette manifestation publique et collective des élus s'était exprimée au moment, beaucoup plus tôt, et au moment où la sous-préfecture et le bâtiment de la gendarmerie avaient été saccagés par des individus d'une violence extrême.
Et petite parenthèse, au moment où quelques semaines auparavant, déjà une députée, celle de Limoux, avait été menacée de la même façon, grosso modo, pire même peut-être.
Exactement. Donc, alors la question que je pose, messieurs les élus, je la pose aux élus, est-ce que si vous aviez eu cet acte de solidarité et de manifestation de la défense des symboles républicains, est-ce que cet événement se serait passé?
Oui, voilà, c'est la question.
La question est dans la réponse. Et je terminerai en disant que quand on laisse passer ce genre de choses, hein, qui peuvent paraître futiles ou que l'on peut, comme un élu de Narbonnais me l'a écrit sur ma page Facebook, hein, justifiant effectivement ce silence en disant en substance que c'était une attitude responsable de sa part.
C'est peut-être pas le meilleur mot qui convient.
C'est pas le meilleur mot qui convient maintenant, mais à partir du moment où on laisse effectivement, en se taisant, ce genre d'événements passer, forcément, on laisse entendre à ceux qui les ont réalisés qu'ils peuvent aller largement au-delà de ces premiers actes. Ça s'est passé pour le député Perilla. Il y a eu cette réaction collective. Tant mieux. Mais j'espère qu'à l'avenir, je n'aurai pas, l'occasion de faire à la fois cette chronique pour rappeler, effectivement, qu'il y a des limites dans les atteintes, à la République, que les élus doivent, effectivement, veiller à ce qu'elles ne soient pas dépassé.
Oui, mais ça,
et
c'est...
ce, indépendamment de toute prise
c'est
de position
un
politique
éternel problème.
Et de tout engagement politique. C'est pas une question de droite, de gauche ou de centre.
C'est
une question de
mais
bien
c'est
commun.
Un éternel problème. Et dans ce pays où le droit à la manifestation est sacro-saint, je comprends que beaucoup d'élus marchent sur des œufs dans de telles situations, justement. Voilà. Mais et puis rappelons, comme disait le président Pompidou, quand on a passé les bornes, il y a plus de limites.
Oui,
c'est
exactement.
Hélas, tout à fait vrai. Alors, Céléran, c'est cette propriété, un domaine viticole qui a appartenu, paraît-il, à la prestigieuse famille Toulouse-Lautrec et qui avait été acheté par la région à l'époque où Georges Frêche était président.
Tu
avais déjà évoqué avec une certaine irritation cette chose-là.
Oui, d'ailleurs. Mais pourquoi ? Parce que à l'époque déjà, j'avais écrit, j'avais analysé toutes les raisons qui expliquait que ce projet de parc ne verrait jamais le jour.
Oui,
mais bon, passons, quoi.
Bon, et alors aujourd'hui,
on est en pleine campagne électorale.
Aujourd'hui,
donc,
on y arrive.
Aujourd'hui, on arrive au bout du bout. C'est-à-dire que ces terrains qui avaient été achetés par la région pour en faire un parc régional de haute technologie. Alors, ce serait cruel de rappeler ici, le grand Raoult, qui, au moment de la signature, de cet acte de vente, avec Georges Frêche, le président de l'Aglo, le maire, tous les élus étaient là, c'était merveilleux.
Oui, bon,
bref.
Et aujourd'hui?
Très rapidement, sur ces 330 hectares, il y avait un château classé. Pillé, squatté, le château.
Parce que laissé à l'abandon.
Très rapidement, on s'est rendu compte que jamais, tous ces terrains seraient construits, mais jamais on pourrait y faire un parc, d'activités qui serait le fleuron, économique et technologique du département et de la région, comme le présentait à l'époque Georges Frêche.
Voilà, donc.
Qu'est-ce qu'on fait? Que fait le maire? Ben, on déclasse, effectivement, ces terrains constructibles, on en fait des terrains agricoles. C'est-à-dire que passage, pouf! De 8 millions d'euros, on passe quasiment à 2 millions d'euros, en perte de valeur. Au passage, en même temps, ça permet au maire de la commune en question de faire plaisir à quelques viticulteurs de son village et de bonifier quelques votes, probables, ou certains, peu importe. Conclusion, Dernièrement, la commission permanente de la région s'est réunie pour sanctionner, effectivement, et clore définitivement ce dossier en procédant à la vente pour 2 millions d'euros au groupe Bertrand des 330 hectares en question. Au passage, quand même, Jean-Claude Jules, 8 millions moins 2 millions, ça fait 6 millions.
Ah, ça fait 6 millions perdus, oui.
Donc 6 millions en francs constants. En francs actualisés, ça fait 8 millions.
En euros.
Il
s'agit d'euros.
8 millions d'euros. Ça veut dire que, il y a un monsieur qui aujourd'hui a encaissé 8 millions d'euros, grâce à la gentillesse de Georges Frêche, si je puis dire, le feu Georges Frêche, qui in fine, ne sont pas sortis de sa poche, ils sont sortis de la poche du contribuable.
Du contribuable.
Donc, mesdames et messieurs, vous avez versé 8 millions d'euros pour un projet qui n'a jamais vu le jour,
et
qui aujourd'hui satisfait grandement le groupe Bertrand qui l'a récupéré pour 2 millions d'euros.
Et qui renforce ton message auprès des Gilets jaunes. Il n'y a pas que la fiscalité nationale, il y a aussi la locale. Et on marque une deuxième pause après laquelle nous retrouvons notre invité Didier Codorniou.